Cet après-midi, j'aimerais vous demander de vous reporter à Éphésiens chapitre 4. Ce n'est pas une surprise, puisque c'est le thème que nous avons choisi, mentionné beaucoup de fois dans les présentations. J'aimerais commencer dans ce... Je dois vous raconter une histoire. Parfois, on dit que je donne un sermon simplement pour l'occasion de raconter une histoire. Et je voudrais... Éphésiens chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, en douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Hier soir, M. Winner a parlé de ses traits, ses qualités, en parlant de l'unité. Verset 3, « Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » C'est de cela que nous parlons. Ça, c'est le thème que nous avons choisi pour cette fin de semaine. Ces thèmes sont décidés plusieurs mois à l'avance. Nous avons plusieurs idées, nous discutons de ces idées et nous choisissons un sujet. Et c'est le sujet que nous avons choisi cette année et c'est un sujet très important. Verset 4. « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Ce verset pose un dilemme pour moi, peut-être pour vous aussi, mais je parle pour moi. Je comprends ce que ça veut dire d'avoir un seul esprit. Je comprends ce que ça veut dire avoir une seule espérance. Je comprends un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est facile à comprendre, un seul Dieu et Père. Mais il y en a un là qui me pose un peu problème. Comment comprenons-nous un seul corps? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça serait nier la réalité que de dire qu'il n'y a pas plusieurs groupes qui prétendent être l'Église de Dieu. Ils s'identifient comme l'Église de Dieu, mais ils sont plusieurs. Où est le seul corps? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul corps? Que nous disent les Écritures? Tout cela est lié au sujet de l'unité. L'unité ressemble à quoi? J'ai demandé, j'ai posé la question à différentes personnes, définissez l'unité. Et on a de la difficulté. Une personne dit, mais l'unité veut dire quand on est unifié. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas utiliser le mot pour expliquer le mot. L'unité veut dire quand nous travaillons ensemble. Qu'est-ce que l'unité? Et comment est-ce que cela se traduit dans un seul corps? Chaque année, à l'Institut du Fondement, j'enseigne un cours et j'ai donné comme titre à ce cours « Qu'est-ce qu'il croit ?» Ce cours tourne autour de 10 groupes environ qui ont tous un lien avec l'Église universelle de Dieu et j'explique ce que croit chaque groupe. J'espère que je suis impartial et tiré directement de leurs propres documents, non pas ce qu'on dit à propos d'eux, mais ce qu'ils disent eux-mêmes. Et j'essaie de le présenter. Est-ce que la vérité est importante? Est-ce que la vérité est importante? Ou est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est croyance ou est-ce que c'est comportement qui est important? Est-ce que vous pouvez être un chrétien sans avoir la vérité? Est-ce que vous pouvez être chrétien, avoir la vérité, mais sans le bon comportement? Et je pose une question supplémentaire. Est-ce que c'est plus important de connaître la vérité ou est-ce que c'est plus important de vous comporter en tant que chrétien? C'est une question piège parce qu'on peut pas le diviser en deux. Mais la vérité est centrale. Ce que vous croyez est important, même très important, comme j'espère pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Si la vérité n'a pas d'importance, alors notre appel n'a pas de signification, n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Si tout ce qu'on doit faire, c'est être une bonne personne, entre guillemets, alors on n'a pas besoin d'église, on n'a pas besoin d'appel, tout cela n'a plus d'importance. Je n'y crois pas. Et je ne crois pas que vous le croyez non plus. Si on remonte aux années 1960, c'est là où je vais aller dans un instant, les gens ont écouté une émission à la radio, ils ont regardé une revue et ils étaient convaincus que c'était la vérité. ils ont appris que la Trinité n'est pas biblique. Mais qu'est-ce que ça change? Si vous êtes assis ici et vous croyez à la Trinité et pourtant vous obéissez à Dieu, est-ce que c'est acceptable? Croire à la Trinité ne change pas le comportement des gens, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que vous croyez a une importance quelconque? Pour des milliers de personnes depuis 50 ans, il y a beaucoup de personnes qui croyaient que c'est très important. Nous avons un défi aujourd'hui d'expliquer à nos jeunes comment leur appel est spécial. Je comprends. J'ai déjà expliqué plusieurs fois à des jeunes. Leur appel est unique. Dieu les appelle individuellement. Et pourtant, ils disent, mais je suis dans l'Église depuis que je suis petit enfant. J'ai toujours cru, j'ai jamais cru que c'était faux. Alors, qu'est-ce qui est spécial? À la différence de ce qui, il y a 40 ans, tout le monde avait une histoire. Un jour, quelque chose les a frappés entre les yeux et les a convaincus de la vérité. Des milliers de personnes. Il n'y avait pas des chrétiens de deuxième génération dans les années 60 pour l'Église de Dieu. Il n'y en avait pas. Pourtant, aujourd'hui, et nos nouveaux membres, nouveaux baptisés dans l'Église, viennent surtout de ceux qui ont toujours été à l'Église. Comment est-ce que nous pouvons les convaincre que c'est spécial de recevoir l'appel de Dieu? Est-ce que nos jeunes peuvent être affectés par la croyance que tout ce qu'il faut faire, c'est être une bonne personne et tout ira bien? Comparé au fait de vraiment connaître la vérité à fond. La Bible en dit long sur notre appel. C'est appelé l'appel. L'appel saint, Paul a écrit à Timothée. En hébreu, c'est appelé l'appel céleste. C'est important aux yeux de Dieu qu'il y ait des gens qui ont été appelés et qui comprennent la vérité. Et un bon comportement doit l'accompagner. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est la croyance plus un bon comportement qui définissent le christianisme. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'unité? Comment est-ce que cela amène l'unité? Reportons-nous dans Psaume 133. Je vais vous lire quatre passages qui vont former le fondement de mon message, Psaume 133. Il n'y avait pas d'église dans le sens que nous comprenons aujourd'hui à l'époque où ce psaume a été écrit. Mais il y a un principe éternel qui est dévoilé ici, qui est vrai à toute époque et dans toutes les vies. Psaume 133, cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Est-ce que quelqu'un doute ici que c'est vrai, que c'est un bon principe? Non. Dieu veut que nous demeurions ensemble en unité. Si nous ne pouvons pas définir l'unité, comment est-ce que nous savons ce qu'il faut faire? Nous ne pouvons pas, de manière adéquate, définir l'unité. L'unité est, en fait, sur un continuum. Deuxième verset, Jean chapitre 17. L'unité est sur un continuum. La nuit avant sa mort, Jésus avait quelque chose d'important à dire. J'ai discuté avec des gens quelques minutes avant leur mort et ils disent ce qu'ils ont le plus sur le cœur à ce moment-là. Jésus avait ceci lourd sur son cœur pour pouvoir parler ainsi. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Jean 17, verset 20, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alors, le point ultime de l'unité, c'est le Père et le Fils. Ça, c'est l'unité parfaite. L'autre côté du spectrum, il y a la division. Et quelque part sur ce spectrum, nous sommes. Notre but, alors, c'est de continuer de nous approcher de l'unité qui existe entre le Père et le Fils. Ça, c'est notre défi. Essayer de définir l'unité en disant où nous sommes aujourd'hui va nous frustrer. Je ne veux pas dire que nous ne pouvons pas le faire, j'espère faire quelques progrès là, mais pour moi, de définir l'unité, identifier l'unité, c'est prendre une photo et continuer de nous déplacer sur le spectrum vers l'unité divine. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus-Christ a parlé en termes d'une unité parfaite entre lui et le Père. Et c'est cela qu'il veut pour nous. Et je vais expliquer ça davantage en avançant dans ce sermon. Le but ultime, c'est que nous fassions tous partie d'une seule famille. À la fin de tout, à la fin de tout ce qui se passera, il n'y aura qu'une seule famille. Notre but, c'est de faire partie de cette unique famille. Et jusqu'à ce que nous puissions devenir un, comme le Père et le Fils le sont, où est-ce que nous serons? Et comment est-ce que nous pouvons y arriver? Il y a un processus. Maintenant, Actes chapitre 4, verset 32, troisième passage. Jésus-Christ est le bâtisseur de l'Église. Nous le croyons tous, nous le savons tous. C'est une prémisse fondamentale. Il est le chef de l'Église, il est le fondateur de l'Église. Alors, il veut quel genre d'Église? Actes chapitre 4, verset 32, voici l'Église. Peu de temps après Actes chapitre 2, la Pentecôte, on peut dire que ce spectrum est assez loin de la division et beaucoup plus proche de Dieu le Père et Dieu le Fils. Verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Il y avait au moins trois personnes. Il y avait plus de personnes à ce moment. À ce moment, si on prend une photo de cette époque, photo de l'unité, et en mettant ensemble nos photos, nous allons arriver à quelques conclusions à la fin du sermon concernant ce que l'unité est vraiment et ce que ça veut dire être un seul corps. Si vous avez pris un cliché à ce moment-là, 3, 4, 5, 6 000 personnes qui n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Nous savons que, au chapitre 5, déjà, nous avons un exemple qui montre que tout le monde ne l'était pas. Un cœur, une âme. C'est une description que nous lisons de l'Église ici. C'est vraiment étonnant. N'était qu'un cœur et qu'une âme. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je peux lire les mots. Un cœur, une âme. Littéralement, c'est une expression qui veut dire nous sommes tellement unis, nous nous approchons de l'unité du Père et du Fils, nous sommes vraiment unis. Nous voyons les choses de la même manière. Faisons attention, l'unité n'est pas la même chose que d'être identique, d'être pareil, ce n'est pas nécessaire pour être unis. Prenez l'exemple d'une équipe de football. Il y a des joueurs sur le terrain. Il y a l'attaquant, la défense. Toutes les positions sont différentes. Toutes les positions ne sont pas les mêmes. Celui qui est l'attaquant n'est pas le gardien. Mais s'ils vont réussir, ils seront unis. Il ne faut pas être pareil. On ne vous demande pas de ressembler à quelqu'un d'autre pour être unis. 1 Corinthiens chapitre 1, encore un autre passage, le quatrième. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Et ces quatre passages créent le fondement de ce que je voudrais dire aujourd'hui. Puis je vais vous raconter une histoire dans un instant. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Je ne sais pas exactement expliquer comment on peut arriver à cela. Je peux lire les mots, mais comment est-ce qu'on fait? C'est très exigeant de pouvoir arriver à cela. Il y a quelques années, quand j'ai étudié les épîtres de Paul, on nous a posé la question dans le cours, quel était le problème de fond dans l'assemblée de Corinthe? Il y avait de l'immoralité, il y avait de l'orgueil, il y avait la confusion concernant le déroulement des assemblées et la Pâque. C'était une congrégation très troublée, mais au fond, le problème à Corinthe était division, une manque d'unité. Tous les autres problèmes ont émané de ce problème fondamental. Et c'était une assemblée très divisée. Tout cela forme un fondement. Et j'ai laissé pas mal de questions sur la table également. Maintenant, je voudrais prendre quelques clichés de l'unité. Ce que ça veut dire travailler ensemble. Nous pourrions prendre une photo ici, dans notre esprit. Nous aimons beaucoup des exemples. Nous pensons en images plus que paroles. Les paroles ont une signification pour nous, mais les paroles peuvent nous confondre. Mais quand nous voyons une image, là, nous pouvons mieux comprendre. Ah, c'est ça que ça veut dire. Là, je vois maintenant. Et je crois que la meilleure façon de comprendre l'unité, c'est de cette manière-là. Récemment, j'ai lu un livre qui concernait l'Église universelle de Dieu et l'histoire de l'Église universelle de Dieu. Et cela m'a fait réfléchir et cela m'a fait remémorer des choses que j'ai vues à travers le temps. Comment est-ce que je suis arrivé là où je suis maintenant? Quel était le processus qui m'a amené à ce point de ma vie? Cela a commencé où? Nous sommes tous nés à un moment donné, et ça, c'est le début. Mais j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire d'un miracle qui a eu lieu à travers des années, et j'en étais témoin. J'ai pris un cliché mental. Il faut remonter à 1948. 1948, mon père a quitté l'armée honorablement. Il avait été appelé en 46 et en 48, il est revenu dans l'Arkansas. Il avait 20 ans. Il s'est marié avec ma mère au mois de novembre 1948. Elle avait 18 ans. Et ils se sont mariés. C'était des fermiers. C'est tout ce qu'il avait connu dans sa vie. Il n'avait pas beaucoup d'éducation, n'a pas terminé le lycée. Ma mère était fille de fermier, maintenant épouse de fermier. Ils ont vécu dans une maison fusil, on l'appelait. Et ils devaient louer une maison, puisqu'ils ne pouvaient pas. C'était une maison étroite, et on l'appelait maison fusil parce que si on tirait une balle à travers la porte de devant, ça pouvait sortir par la porte arrière et ne jamais toucher un mur. 1950 et 51 étaient difficiles. Mon père voulait améliorer sa vie. Il est allé à Michigan City dans l'Indiana où il espérait trouver du travail. Et en 1952, il est revenu, il a pris sa famille dans l'Indiana, Michigan City, Indiana. Mais quelque chose est arrivé. La famille a aménagé dans un appartement. Il y avait un appartement dans le sous-sol, c'était notre appartement dans le sous-sol. Mais la famille au troisième étage venait du même petit village de l'Arkansas que nous avions vécu. Ça semblait impossible. Et puis, il y avait une autre dame qui a grandi dans le même village également. Et elle a fait la connaissance de ma mère et de cette autre dame qui s'appelait Ruppel. elle ne savait pas lire ni écrire. Ma mère avait eu 7 ans d'école et il y avait des petits-enfants dont elle devait s'occuper pendant que les maris travaillaient. Et ils ont écouté la radio. Elles ont fait la connaissance d'une troisième dame qui est venue de ce même village de l'Arkansas et ils ont commencé une relation. Et elle a dit, il faut écouter cette émission qui passe à minuit chaque soir. Alors, ils ont commencé à le faire. Dans ces années-là, l'émission de l'Église était une assemblée de l'Église. Il y avait des cantiques, il y avait un sermon. C'était l'Église radiophonique de Dieu avec Herbert Armstrong. Alors, elles ont écouté. Elles ont écouté encore et encore et encore. Ces trois dames du même village de l'Arkansas se sont assemblées sans le savoir dans un petit appartement à Michigan City dans l'Indiana. Après quelques semaines plus tôt, Rubel était convaincu que c'était la vérité. Le prénom de ma mère, le prénom de ma mère était Hermagen. Elle a dit, Imogen, c'est vrai ça. Et ma mère disait, comment est-ce que tu le sais? Tu ne sais même pas lire ou écrire. Elle a dit, mais tu le lis, lis-le pour moi dans la Bible. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont étudié la Bible ensemble, elles ont décidé qu'il fallait faire quelque chose. Ils ont demandé des brochures, ils commençaient à communiquer avec Pasadena. Et un an après, environ, là, notre famille est repartie vers l'Arkansas. L'autre famille aussi a suivi. Ils ont perdu le contact, nos familles. Il n'y avait pas d'église, on pouvait assister, il n'y avait nulle part où aller. Mais il y avait un message. Et ce message les a affectés profondément. Et pour ma mère, elle ne pouvait jamais oublier cela. Elle a écrit une lettre à Pasadena disant qu'elle voulait être baptisée. Ils lui ont écrit pour dire que, pour poser quelques questions à propos de son baptême. Elle a dit qu'elle avait été baptisée par immersion. Ils ont dit, d'accord, nous l'acceptons, vous êtes membre. En 1961, finalement, après avoir observé le sabbat, les fêtes, tout ce qu'elle savait faire, elle l'a fait. Elle a reçu une lettre disant qu'il y avait une congrégation qui allait commencer à Memphis en juillet 1961. L'Église radiophonique de Dieu a eu beaucoup de croissance, une forte poussée de croissance dans ces années-là. Nous étions invités à être là. Ma mère était considérée comme membre. Nous ne pouvions pas être là à la première fois. Mon père ne s'intéressait pas à ce moment-là. En janvier, il est allé acheter un complet usagé pour 25 sous et nous sommes partis pour aller à l'église. Et l'église était vraiment très importante pour nous. Mais il y a un événement qui a eu lieu en 1967 qui, pour moi, j'ai un cliché très important dans mon esprit, dans mes souvenirs, qui a expliqué quelque chose d'important. En 1967, une annonce a été faite à l'église que Mme Loma Armstrong était mortellement malade. En 1961, il y avait 11 000 personnes à la fête des tabernacles, à peu près le même chiffre que nous avons eu. Mais en 1967, il y avait 45 000 personnes. Et beaucoup d'histoires comme celle de ma mère, d'avoir entendu un message, de répondre à ce message. Un miracle dans chaque cas. Des événements inhabituels qui tombaient en place pour expliquer comment tous ces gens se sont unis. Mais en 1967, Mme Strong est devenue très malade. Nous sommes venus à l'Assemblée et il y avait une ambiance très différente, très solennelle. Je ne me souviens pas de la sermonnette, mais je me souviens où le pasteur a commencé les annonces. Et il a dit, « J'aimerais demander à vous tous, s'il vous plaît, de vous lever. Hommes, femmes, enfants, tout le monde, levez-vous, s'il vous plaît. » Et maintenant, il a dit, « J'aimerais vous demander de vous agenouiller. Accrochez-vous au siège devant vous et mettez-vous à genoux, car nous allons, en tant qu'Église, nous allons prier pour Mme Armstrong. » Il a quitté la scène et il s'est mis à genoux et commencé à prier. Nous avions la tête baissée. J'ai cette photo dans mes souvenirs. l'Église dans son ensemble priait pour quelque chose. Nous prions déjà, mais là, nous l'avons fait tous ensemble. Et je crois que tous les 45 000 membres faisaient cela ce même jour. Il y avait un moment quand il y avait la réalité de l'unité. C'était le visage de l'unité. Nous étions unis dans notre croyance. Ce n'était pas simplement un verset dans la Bible. Et j'ai pris une photo mentale de cela et je l'ai gardée dans mon esprit. C'est ce que j'ai vu. Je ne suggère rien de plus que cela. Il y avait un sentiment d'unité. On peut dire, est-ce que c'était vraiment l'unité? On peut le débattre peut-être. On ne sait pas ce qu'il y avait dans le cœur de tout un chacun. Mais d'avoir autant de personnes qui priaient le même jour pour une chose, j'ai eu le sentiment de faire partie de quelque chose. Je faisais partie de l'Église. Je n'étais pas simplement un adolescent qui assistait. C'était l'Église, c'était mon Église. J'appartenais à cette Église. Et c'était un très grand élément important dans ma vie. Et nous étions là comme un. Comme la semaine après, nous avons reçu la nouvelle que Mme Armstrong est décédée. C'est un peu comme quand David priait pour son fils qui était malade. Puis, il a pris la nouvelle que le fils était mort. Nous avons fait un peu la même chose. Nous avons accepté ce qui s'est passé et nous avons continué avec notre vie. Mais j'ai cette image dans mon esprit. C'était vraiment spécial. Peut-être que j'étais qu'un adolescent et j'ai vu tout le monde à genoux et j'imaginais qu'il y avait une unité qui n'était pas là, peut-être. Mais pour moi, c'était très important. Ça avait une grande signification pour moi. Il y avait des moments difficiles dans les années 70 et 80. J'ai pensé à l'Église en tant que... J'ai une citation ici. Théodore Bickel a dit, « Sans aucun doute, l'unité est quelque chose à désirer, à rechercher, mais elle ne peut pas être voulue par de simples déclarations. » Attention si vous déclarez que vous avez l'unité. Vous ne pouvez pas simplement déclarer « on est unis ». Vous pouvez le déclarer, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'unité n'est pas d'être tous pareils. L'unité concerne notre appel, notre but. Avançons maintenant 30 ans. Nous arrivons en 1995. Il y avait des événements destructeurs qui arrivaient dans l'Église. Le printemps 1995, c'était terrible. Cette année, on a noté que tous nos étudiants de l'Institut de Fondement, tous nos enfants cette année, tous nos étudiants plutôt, sont nés après 1995. Ils n'ont pas de connaissances personnelles de cette autre association. En 1995, on est venu vers moi avec l'idée « l'unité à tout prix ». Nous savons qu'il y a des choses qui clochent, il y a des choses qui sont mauvaises, mais nous devons rester ensemble à tout prix. J'avais pas de confusion dans mon esprit, mais je doutais un peu, je ne savais pas exactement ce que je devais faire. Les ministres recevaient des coups d'appel pour dire ou vous acceptez et prêchez ce qu'on vous dit, ou alors vous devez démissionner. J'ai reçu mon coup de fil le jour avant la Pâque, 1995. Et l'appel commençait comme ceci. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ne savez-vous pas que vous divisez l'Église? Et j'ai dit, mais je ne crois tout simplement pas ce que vous dites. Il y avait trois administrateurs au téléphone avec moi. L'un d'eux m'a dit, j'ai appris que si vous le prêchez d'abord, vous allez commencer à le croire après. Et moi, je me suis dit, non, c'est l'inverse. Je me suis dit, il faut le croire avant de le prêcher. J'ai jamais prêché quoi que ce soit que je ne croyais pas. Ils ont dit, ben, vous divisez l'Église, ils m'ont dit. Vous créez la division. Vous devons rester ensemble à tout prix. À la fin de la conversation, ils m'ont demandé de démissionner. Et ils m'ont posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Nous vous connaissons depuis longtemps, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Et voici ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai l'impression que je suis dans l'Allemagne nazie dans les années 40. et tous les gens qui croient comme moi et tous les gens qui sont mes amis, on les enlève dans les wagons de train vers des camps de concentration. Ils sont enlevés de l'Église. Et j'ai dit, je préfère être avec eux qu'avec vous. C'était la fin de ma carrière ministérielle. Il y a eu des changements qui ont eu. Reportons-nous dans Jean chapitre 17. J'ai une autre image. Ce n'est pas une image agréable de 1995. J'ai cette image dans la tête aussi. Ça faisait mal. Ça faisait mal d'entendre dire « Vous divisez l'Église. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. » Des centaines, des milliers de personnes croyaient cela, que c'était ce qu'il fallait faire puisque l'Église l'a dit. C'est l'Église qui l'a dit. On peut oublier le fait que ils ont arrêté d'observer le sabbat, les jours saints, et des changements arrivaient rapidement. Il fallait faire quelque chose. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Pour moi, ma réconciliation avec Dieu est venue par la vérité, non par des gens. Est-ce que je devais me séparer de Dieu ou est-ce que je devais faire ce que je croyais dans mon âme et conscience être la bonne chose à faire? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Sanctifiés par la vérité. C'était une période très difficile. J'ai pris une photo mentale dans mon âme et conscience. C'était l'autre côté du spectre. J'avais une image de l'Église qui se rapprochait de l'unité de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Ça, c'est mon image à moi, ma photo. Un seul corps, uni. Mais cette deuxième photo n'était pas bonne. La photo était claire et nette, mais cette photo m'a dit autre chose. J'étais de l'autre côté du spectre maintenant. La question que je devais poser, c'est est-ce que j'étais la cause de la division ou est-ce qu'il y avait une autre explication? Est-ce que ça valait la peine de se séparer du groupe? Et la décision était finalement oui. Nous sommes sanctifiés par la vérité et non pas par un être humain. Nous sommes appelés par Dieu par la vérité. Si la vérité n'a pas de valeur pour nous, si la vérité est là, elle est là, ça va. Et je crois que c'est la conclusion de certaines personnes. La vérité n'a pas vraiment. Tout le monde a un peu de vérité. Nous n'avons pas la vérité. Et là, les arguments ont commencé. Ce qui s'est passé dans l'Église depuis 30 ans n'est pas nouveau. L'histoire de l'Église a les deux extrêmes, des clichés de division, des clichés d'unité. C'est ce spectrum. C'est l'histoire de l'Église. Mais c'est l'histoire du monde également. Le monde est divisé aujourd'hui. Il y a des idéologies différentes. Il y a des monarques, communisme, socialisme, démocratie, etc. Pas un seul n'a jamais produit l'unité. Certains ont fait mieux que d'autres, des religions différentes, christianisme, hindou, islam, juif, bouddhiste. Et ces églises ne se ressemblent pas. L'Église catholique s'est divisée en l'an 1054 au sujet de deux mots. Et fils étaient les deux mots. L'Église catholique a dit, le Saint-Esprit est main du Père et Fils. Et l'Église orthodoxe de Constantinople ne pouvait pas l'accepter. C'était la scission entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Dans les années 1800, il y avait un grand schisme concernant si on pouvait utiliser un orgue dans le culte. Dans la réforme, on essayait de mettre tous les États protestants, on voulait l'unité pour s'opposer à l'Église catholique, mais Locke. Mais lorsque Martin Luther et Ulrich Zwingli de Zurich ne pouvaient pas s'entendre sur le sens de le repas du Seigneur, Zwingli le voyait comme symbolique. Luther croyait que Christ était littéralement présent dans le pain. Et l'argument est devenu tellement Luther a pris son couteau et il a taillé dans la table EST et Jésus-Christ est là. Ils essayaient d'unifier les réformes protestantes et ça a échoué. Et depuis là, il y a eu des divisions après divisions. Il y a maintenant des divisions à l'intérieur des divisions. Si quelqu'un dit « je veux être presbytérien », il faudra poser la question. Est-ce que vous voulez dire le PCA, le PCUSA, le Cumberland, le Canadien ou l'évangélique presbytérien? Lequel? En 1995, nous faisions face à de grandes décisions. Où est-ce qu'on allait être sur ce spectrum? Divisé ou plus vers l'unité? Cet après-midi, je voudrais vous donner trois aspects de l'unité. Et ça, en fait, c'est le titre de mon sermon. Ça m'a fallu un peu de temps pour arriver, mais j'y suis arrivé maintenant. Les trois aspects de l'unité. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai mis mes photos mentales ensemble depuis 50 ans et je voudrais partager quelques conclusions avec vous. Il y a trois aspects de l'unité. Si vous voulez voir ce que l'unité est, il faut voir tous les trois. Tous les trois sont nécessaires. Les trois sont nécessaires. Voici les trois aspects avant d'aller plus loin. Le premier aspect, pour être un seul corps, il faut avoir une compréhension doctrinale commune. Il faut croire la vérité. La seule façon de faire partie du corps de Christ est de comprendre et d'accepter la vérité. Donc, il faut définir la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La diversité de doctrines ne produira jamais l'unité, seulement davantage de division. Compréhension, doctrine commune, doctrinale commune. Aspect numéro 2. Pour être un seul corps, il faut avoir un objectif commun. Pourquoi sommes-nous ici? Quel sera l'avenir? Ça, c'est essentiel à l'unité. Et l'aspect numéro 3. Il faut avoir une norme de conduite commune. Norme de conduite commune, basée sur l'amour les uns pour les autres. Si nous n'avons pas une norme de conduite commune, basée sur l'amour les uns pour les autres, personne n'est parfait. Mais si nous avons des normes différentes pour différentes personnes, nous avons déjà semé la semence de la division. Il y a une norme de conduite commune. Nous devons suivre cela si nous voulons avoir un seul corps. C'est basé sur l'amour les uns pour les autres. Ces trois aspects décrivent un corps uni de croyants. C'est pas facile de le trouver, et une fois qu'on le trouve, on doit le maintenir, comme nous l'avons vu dans Éphésiens. Considérons chaque aspect maintenant. Premier aspect, compréhension doctrinale commune, autrement dit, la vérité. Quelle a l'importance de... Reportons-nous dans Jean chapitre 4. Et ensuite, je vous citerai certains passages. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, c'est nous, nous sommes ici pour adorer Dieu, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le christianisme véridique doit être fondé sur la vérité. Bien sûr, nous sommes heureux de connaître des gens qui sont des bonnes personnes. J'ai entendu cet argument plusieurs fois. J'ai des amis dans l'église baptiste qui sont de meilleurs chrétiens que les gens avec qui j'assiste à l'assemblée le sabbat. Et j'ai dit alors, vous voulez en venir où? J'ai jamais proclamé que nous étions un groupe parfait de gens. Mais sans la vérité, vous ne pouvez pas être le chrétien que Dieu vous a appelé à être. Il faut avoir la vérité. Donc, la vérité est sainte. Ça vaut la peine de le maintenir. Il faut faire tout ce qui est nécessaire pour le maintenir. Il faut adorer en esprit et en vérité. La vérité nous a franchis, Jean 8, 32. Nous sommes sanctifiés par la vérité, Jean 17, verset 19. Ta parole est la vérité, Jean 17, 17. Et on nous dit que pour être sauvés, nous devons avoir un amour pour la vérité, de Thessaloniciens 2, 10. Jusqu'à quel point est-ce que la vérité est importante? Je pose cette question chaque année aux étudiants à l'Institut de Fondement. Et c'est un peu une question piège. Est-ce que c'est le comportement plus important que la croyance ou est-ce que la croyance est plus importante que le comportement? Ce n'est pas une chose négative que j'ai dit à propos de nos enfants. C'est plus facile pour nos jeunes de prendre pour acquis la vérité, puisqu'ils l'ont toujours connue. Il ne faut jamais prendre à la légère ou pour acquis la vérité. Il y a des gens qui sont morts pour maintenir la vérité. Il y a des gens qui ont cherché la vérité et lorsqu'ils l'ont trouvée, ici sont accrochés. Si vous n'avez pas la vérité, alors vous n'êtes pas de ce seul et unique corps de Christ. Et si vous n'agissez pas selon la vérité, vous n'êtes pas à Christ. Parfois, il y a des gens qui disent, « Regardez, ce groupe-là, ils observent le sabbat et les jours saints. » Comme si ça doit nous impressionner. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas malheureux qu'ils observent le sabbat et les jours saints. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut avoir. Ce n'est pas tout ce que nous croyons. C'est loin d'être tout ce que nous croyons. Sans une compréhension commune, nous n'aurons jamais l'unité. C'est tout aussi important de comprendre le but de la vie humaine. Pourquoi sommes-nous nés? Cette compréhension nous sépare de l'Église, du monde, mais identifie ce que Dieu accomplit. Et sans cela, qu'est-ce qu'on sait? Jean chapitre 3, verset 16. Une page en arrière. Vous connaissez ce passage? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce qu'on peut comprendre le point, l'idée que Jésus-Christ désire que tout le monde soit sauvé, et le Père aussi? Il veut que tout le monde fasse partie de leur famille. Comment est-ce que cela sera accompli? Est-ce que Dieu va descendre le bar? Il va baisser ses exigences? Que nous avons une exigence à atteindre, mais que le monde va pouvoir faire moins? Les gens qui n'ont jamais connu Christ, mais ce sont des personnes qui sont bien. Nous sommes jugés par leurs œuvres. Ils ont fait beaucoup de bien. Alors, ils vont entrer dans le royaume de Dieu comme ça. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Il y a quelques années, j'ai eu une discussion avec le président de l'Église de Dieu septième jour. À ce moment-là, il m'a demandé d'enseigner un cours pour eux sur l'histoire de l'Église. Et dans notre discussion, au début, j'ai demandé, mais quelles sont les différences de notre théologie? Je ne veux pas créer un problème si j'accepte d'enseigner ce cours. Il m'a dit, eh bien, il y en a trois, principalement. Nous ne croyons pas dans les jours saints. Nous n'acceptons pas l'idée que les États-Unis et l'Angleterre sont issus d'Israël et nous croyons qu'aujourd'hui est le seul jour de salut. J'ai dit vraiment, le troisième m'a surpris. J'ai dit, vous voulez me dire que tout le monde est jugé par cette vie, c'est tout? Il a dit oui. J'ai dit, mais comment ça marche? J'ai raconté une histoire, une vraie histoire. J'ai dit, un enfant qui a 6 semaines. Qui a été assassiné. J'ai reçu un appel une matinée. Il y avait une jeune femme qui avait assisté aux assemblées, avait grandi dans l'église et elle était sortie de l'église. Elle vivait avec son ami, son petit ami. Elle m'a téléphoné pour dire qu'ils allaient rapidement à l'hôpital avec leur bébé de 6 semaines qui ne respirait plus. Et est-ce que j'irai? Je suis allé à l'hôpital et en arrivant, Il y avait un homme qui discutait, un groupe, qui parlait à un groupe de gens. Il m'a demandé qui j'étais. Et il m'a demandé s'il pouvait me dire un mot. J'ai dit oui. Il a dit, je suis détective de l'homicide avec le département de police de Houston. Nous croyons que cet enfant a été assassiné par son père. Je ne connaissais pas le père. Plus tard, il était trouvé coupable d'avoir tué son propre enfant. Il était envoyé en prison. J'ai demandé à cet homme de l'Église de Dieu septième jour, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Si tout le monde est jugé par ses œuvres, quelle œuvre est-ce que cet enfant a fait? Il a dit, je ne sais pas. Dieu s'en occupera. Dieu est juste. J'ai dit, vraiment? Mais la Bible nous dit aussi que Dieu ne fait pas exception de personne. Quelqu'un va entrer au royaume de Dieu qui n'a jamais eu à connaître la vérité, qui n'a jamais eu des œuvres sous cette vérité. Il a dit, eh bien, nous ne croyons pas dans votre théorie de deuxième chance. J'ai dit, nous ne croyons pas qu'il y a une deuxième chance, mais nous enseignons une opportunité universelle pour tout le monde. C'est la seule façon. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu probablement 100 milliards de personnes qui ont vécu. 100 milliards. Si on ajoute tous les noms dans la Bible, vous ne pouvez arriver à... Il y a peut-être quelques milliers de noms dans la Bible, c'est tout. Peut-être qu'il y a 1 milliard de personnes qui seront dans la première résurrection. Ça veut dire qu'il y a 99 milliards qui n'y seront pas. Si c'était un bon hindou, il a adoré des centaines de dieux, c'est acceptable, et il sera ressuscité et entré dans le royaume de Dieu. Il a dit, je suppose. Il n'y avait pas de réponse. Notre compréhension du plan de Dieu pour l'humanité, non seulement pour nous, mais pour le monde, ça fait une grande partie de ce que nous croyons. Et je suis convaincu que cela fait partie de la vérité. Ce n'est pas seulement le sabbat et les jours saints, ça c'était clair. Mais quand nous avons lu la brochure « Pourquoi êtes-vous né ?» et nous commencions à comprendre le plan de Dieu, que Dieu veut une famille, en fin de compte, une famille. Il veut offrir le salut à chaque être humain qui a jamais vécu. Là, c'est logique. Qu'on ait 6 semaines ou 100 ans, un hindou qui a adoré de multiples dieux n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Chaque personne aura l'occasion de connaître la vérité. C'est seulement la vérité qui peut nous sanctifier. Quand est-ce que cela aura lieu? Apocalypse chapitre 20 le rend très clair pour nous. Le dernier grand jour, le jugement du grand trône blanc. La Bible ne donne pas beaucoup de détails, mais la Bible donne les réponses à des questions que l'humanité ne peut pas comprendre. Donc, pour avoir un seul corps, il faut avoir une compréhension doctrinale commune. Et nous devons mettre beaucoup de valeur à la vérité. Est-ce que c'est plus important que votre façon de vivre? Non, mais c'est important. Deuxième aspect de l'unité, deuxième image que j'ai dans mon esprit, nous devons avoir un objectif commun, un but commun. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 26. Un objectif commun. Quelqu'un peut avoir la vérité, mais s'il n'a pas un objectif ou un but commun, pas l'unité. 1 Corinthiens 1, verset 26. Considère, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages sans la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Pourquoi est-ce que vous avez été appelés? Quel est votre but dans la vie? Est-ce que nous avons un but central? Nous revenons au plan de Dieu. Notre explication du plan de Dieu le rend très clair. Dieu a un but. Il a un plan magistral. Et son plan se culmine dans de nouveaux cieux et nouvelles terres. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Voici le plan de Dieu expliqué en quelques mots. Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption, par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous n'avons pas été prédestinés d'être perdus ou sauvés, mais il y a un chemin à suivre. Il y a un chemin particulier qu'on doit emprunter qui va d'ici à la vie éternelle. Dieu ne fait pas exception de personne. Ce chemin a été prédéterminé. J'ai toujours trouvé intéressé, j'ai officié à beaucoup de funérailles à travers le temps. Quand je me prépare, la Bible, je suis frappé que la Bible est un livre à propos de la vie, non pas la mort. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Ensuite, nous avons l'arbre de vie. Et là, nous allons jusqu'à Apocalypse chapitre 22 et au verset 12. Et là, nous arrivons à la fin. Et tout sera terminé. Et sur ce spectrum, nous avons des occasions, quand Dieu appelle les gens de faire partie de ce seul corps, nous avons cette occasion. Apocalypse 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. » Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Verset 19. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite de ce livre. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre l'eau de la vie gratuitement. La Bible est un livre concernant la vie et il y aura en fin de compte une seule famille. Ça commence par l'arbre de vie, ça finit par l'arbre de vie et nous faisons partie de cette histoire. Troisième aspect de l'unité, des normes de conduite communes. Une norme de conduite commune, basée sur l'amour les uns pour les autres. Personne parmi nous n'est parfait. Et nous échouons tous dans nos efforts. Nous trébuchons encore. Ça ne veut pas dire que les normes changent, les attentes. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tout ce qui se passe dans nos congrégations doit être basé sur l'amour. Ça ne veut pas dire que l'on tolère le péché ou qu'on descend nos attentes. Dieu a des attentes pour nous tous et cela ne change pas. Ce n'est pas une chose pour un groupe et une autre chose pour un autre groupe. Ce n'est pas un standard pour l'Église de Corinthe et un standard différent pour celle d'Éphèse. Nous devons obéir à la loi de Dieu. Actes chapitre 10, verset 34, « Dieu ne fait pas exception de personne. » Si jamais vous faites cela, si vous acceptez des normes différentes pour différentes personnes à cause d'un individu, alors vous avez semé la semence de la division. Mais l'amour pour quelqu'un qui se repent de ses péchés, avoir l'amour pour quelqu'un qui est disposé à changer, ça c'est la base, le principe de base qui nous guide. Dieu nous a donné l'occasion d'être ensemble en tant que corps de personnes. Nous devons décider où nous sommes sur ce spectrum. Nous devons comprendre les trois aspects de l'unité. Nous devons avoir un meilleur résultat que ce qui s'est passé à l'Église de Corinthe. L'Église de Corinthe négligeait les trois aspects que nous venons de voir. Ils n'avaient pas de doctrine commune. Ils n'avaient pas de but commun. Et il n'y avait pas une norme commune, standard de conduite. Tout cela manquait à Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4. 3, verset 1, ils allaient devant la justice, amenaient les frères en justice, mauvaise observance de la Pâque, des erreurs concernant les résurrections. Il y avait des problèmes de doctrine. Il y avait une mauvaise compréhension concernant ce qui était le plan de Dieu. Et il n'avait pas un standard qui était appliqué à tout le monde. Il passait à côté d'un homme qui vivait dans l'adultère. Ça ne va pas promouvoir l'unité. Tout cela a eu lieu. Paul explique tout cela. Quelle est la réponse? Qu'est-ce que nous devons faire? 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Vérifiez-vous. Confirmez ce que vous croyez. Comprenez ce que vous croyez. Cherchez la vérité. Que la vérité fasse partie de votre vie. Faites attention de ne pas trébucher. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Verset 7, « Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes éprouvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous ne soyons comme désapprouvés. » Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles et tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Dans la crise de 1995, j'ai reçu un rappel de l'unité dans l'Église, ce à quoi elle devrait ressembler. J'avais une image dans mon esprit de 1967, ce que l'Église devait ressembler. Est-ce qu'elle était comme ça au fond? Je ne sais pas, mais c'est l'image de mon esprit. Et cela nous ramène à aujourd'hui. Cela m'a rappelé un incident qui, concernant le prédicateur luthérien allemand Martin Niemöller. Il était opposé à Adolf Hitler et il était emprisonné à Dachau. Un de ses collègues ministres est venu rendre visite. Il a vu Martin. Il a dit, « Martin, pourquoi êtes-vous ici? » « Ce n'est pas la question, » répondit Niemöller. « La question est, pourquoi n'es-tu pas ici ?» La vérité. La vérité. Nous avons reçu une compréhension merveilleuse de la vérité. Que nous soyons première génération, deuxième, troisième, quatrième dans la vérité est distinguée. Et alors que la confusion se répand au nom de la religion, où plus de gens abandonnent la religion complètement, aujourd'hui, on a l'idée « je suis spirituel, mais pas religieux ». Ça, c'est une idée populaire. Parce qu'ils voient l'hypocrisie qui peut exister, qui existe dans la religion. Je peux être une bonne personne sans aller à l'Église. Mais cela nie la vérité dans l'Église de Dieu. Quand on commence à nier la vérité, alors l'espoir d'avoir l'unité va sortir par la fenêtre. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Nous dit que nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité doit être basée sur une compréhension commune de la vérité, le but de la vie, et Dieu ne fait pas exception de personne, des attentes de conduite commune. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons continuer à étudier. Il ne faut jamais minimiser la valeur de la vérité, soutenir une mission commune dans le monde, représenter une norme de conduite commune. Votre comportement est important. Cette image ressemble à quoi? Croyance. C'est entre nos mains, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement, ça ne dépend pas du ministère uniquement. C'est entre vos mains. Vous allez promouvoir l'unité pour les bonnes raisons. Ces trois aspects. Chaque sabbat, vous avez l'occasion de promouvoir la vérité, de promouvoir l'amour les uns pour les autres et de rester ferme sur ce qui est acceptable comme comportement. C'est comme cela que Paul a dit aux Corinthiens. Nous ne savons pas quel était le résultat final, mais Paul leur a bien expliqué ce qu'il fallait faire. Revenons à nos questions d'origine. Sommes-nous unis aujourd'hui? L'unité est une cible mouvante. C'est quelque chose que nous devons viser. Il s'agit clairement d'une échelle mobile. Ça va de la division jusqu'à l'unité représentée par le Père et le Fils. Et nous sommes sur ce spectrum quelque part. Il y a la paix aujourd'hui dans l'Église, mais cela pourrait changer. Le désir de Satan est de perturber et de produire la division. Et il n'abandonne jamais. Il devrait avoir une passion pour connaître la vérité, de pratiquer la vérité, pas parfaitement, mais d'avoir un but commun et une norme de comportement commune. J'ai lu ceci de Winnie l'Ourson. Winnie l'Ourson a fait une promenade en soirée avec son ami Porcinet, et ils ont marché longtemps en silence, mais Porcinet a finalement demandé « Quand tu te réveilles le matin, Winnie, quelle est la première chose que tu dis? Qu'est-ce qu'on va manger comme petit déjeuner? » Winnie l'Ourson répond « Et que dis-tu, Porcinet? » « Je dis, je me demande quelle chose passionnante va arriver aujourd'hui. » Les premières pensées de Winnie l'Ourson se tournaient vers son ventre, tandis que Porcinet imagine la possibilité qui s'offre à lui. « Quelle chose passionnante va se passer aujourd'hui? » Pour ceux qui ont expérimenté la perte subite de quelqu'un, d'un être cher, c'est très sombre. Tant que pasteur, je suis assis dans beaucoup de pièces et regarder alors que les gens rendent l'âme, comme on dit, ont leur dernier souffle. Mais de pouvoir raisonner, ces gens-là vont être dans la résurrection. Ce n'était pas ma famille. Ce n'était pas que je ne ressentais pas de douleur pour ces gens, mais c'était important. Et alors, quand on arrive plus tard et ça touche votre famille directe, il y a 3 ans, j'ai eu une expérience qui nous a découragés. Je n'arrive pas à en parler encore aujourd'hui. Mais ça va sans dire que l'idée est que dans quelques heures, on pourrait perdre un enfant. C'est très difficile. Mais vous le savez la vérité. Vous connaissez les réponses. Et là, on peut comprendre à quel point la vie est précieuse. Et chaque jour qu'on peut ouvrir les yeux, on a la vérité. On a un but qui vaut la peine qu'on peut poursuivre. C'est plus important que tout dans la vie. Quelle passion avons-nous? Avant d'aller au travail, chaque matin, en me levant chaque matin, il y a 2 choses que je demande à Dieu. Je demande plus que 2 choses, mais il y a toujours 2 choses que je demande à Dieu. Premièrement, je remercie Dieu pour une autre journée de vie et la passion qui va venir aujourd'hui, alors que je cherche à lui plaire. Et deuxièmement, je demande à Dieu de m'aider à être une meilleure personne aujourd'hui que j'étais hier. Quand j'étais au lycée, j'avais un grand argument avec mon prof de sciences. Je disputais pas mal avec mes profs dans ces années-là. Mais ce professeur voulait me convaincre. Il voulait me convaincre d'accepter quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Il a dit, va vers le mur, là. Tu vas marcher vers ce mur. Et chaque pas que tu prends, et ensuite, le pas suivant, tu fais la moitié de la distance. Tu ne vas jamais arriver au mur si tu fais ça. Tu ne vas pas reculer. Parce que si tu as vraiment une distance infime, si tu prends la moitié. Et moi, j'ai dit non, c'est faux, je suis de l'Arkansas et je vais arriver au mur si je continue à marcher. Je vais arriver au mur. Il m'a dit non, tu ne vas jamais arriver au mur. Scientifiquement, c'est impossible. Je m'en fiche. Je pense souvent à cet argument et je suis convaincu que si j'avance toujours, peu importe si c'est juste un petit peu, je me rapproche de la fin de ce spectrum qui est l'unité entre Dieu le Père et Jésus-Christ. Et si je fais ça chaque jour, je vais y arriver. Chaque jour, il y a une passion. Il y a 3 aspects de l'unité. La croyance, unité de comportement Et nous sommes ici pour adorer Dieu dans l'unité au milieu d'un monde chaotique et de confusion. Remercions Dieu pour la clarté qu'il nous donne et pour son but et pour les trois aspects de l'unité, alors que nous nous efforçons d'arriver à cette unité tous les jours.